Bienvenue sur Bac FM. Vous êtes en compagnie de Maya, de Crystal et de Mathias. Nous sommes élèves de la classe de première G3 au lycée Raoul Follereau. Aujourd'hui, nous recevons l'autrice Justine So pour sa BD Wax Paradox, parue aux éditions Bayard Graphics en 2025. Bonjour Justine.
Bonjour.
Cette interview a lieu dans le cadre du prix littéraire L'Échappée littéraire, organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour rappel, ce prix est ouvert à 40 lycées de la région et met en compétition 4 romans et 4 bandes dessinées. À l'issue des lectures, les lycéens et apprentis voteront pour leurs auteurs préférés.
Justine, vous êtes une journaliste belge d'origine guinéenne, diplômée de l'école Saint-Luc de Bruxelles en bande dessinée. Vous travaillez à RTL Belgium et en 2025, vous publiez Wax Paradox, votre premier album en tant que scénariste et dessinatrice.
Nous vous recevons pour votre BD Wax Paradox, qui évoque l'histoire du wax, un tissu africain. Mais avant de revenir sur votre BD, nous voulions savoir pourquoi vous aviez accepté de participer à ce concours.
J'ai accepté parce que c'est un concours qui a énormément de sens, je trouve. Je trouve ça génial de faire la promotion de la littérature au sein des classes, au sein des lycées. Moi, je garde un super bon souvenir des interventions de personnes extérieures quand moi, j'avais votre âge et qui venaient dans ma classe et qui nous parlaient. Je m'en rappelle super bien. En général, au moins une petite phrase comme ça qui m'a marquée. Je trouvais que ça nous changeait complètement du quotidien, de ce qu'on faisait en classe. Parfois, c'est pas facile quand même quand la vie d'ado, en fait, la vie de tous les jours. Et quand on a quelqu'un qui vient comme ça de l'extérieur, c'est parfois une bouffée d'oxygène. Et puis, j'aurais bien aimé, moi, avoir quelqu'un qui vienne nous parler de son métier d'auteur ou d'autrice. Parce que moi, à votre âge, j'ai pas eu cette chance. Et donc, c'est resté un mystère, en fait, pendant longtemps. J'ai découvert l'existence de tous ces métiers bien plus tard. Et voilà, moi je trouve qu'il faut soutenir toutes les initiatives qui permettent de faire la promotion de la littérature en classe. Ça, je trouve ça aussi très très chouette que dans ce concours, vous ayez à lire 4 romans mais aussi 4 BD. Parce que souvent les BD sont éclipsés de ce genre de concours, parce que les concours littéraires parfois considèrent que la BD c'est pas la littérature. Or moi je trouve que la BD c'est de la littérature et je trouve ça trop trop bien que vous puissiez travailler autour de ce genre d'ouvrage.
Vous êtes journaliste encore à l'heure actuelle, mais est-ce compatible avec votre vie d'autrice ?
C'est compatible, tout à fait. Tu sais, finalement, ce qui est le plus incompatible avec la vie de journaliste, c'est la vie privée. C'est-à-dire que moi, j'ai des horaires parfois à coucher dehors, comme on dit en Belgique. Donc, quand je suis sur le web, je travaille soit le matin, soit le soir. Donc, je commence ma journée à 6h du matin, je finis vers 14h, donc je dois me lever à 4h30 du mat. Et quand c'est le soir, ben, je commence mon shift vers 13-14h et je finis à 22h. Donc, souvent, il y a encore de l'actu qui tombe, tu dois faire une petite vidéo en plus, t'es tout seul ou toute seule à tenir le site. Et donc, t'arrives vite chez toi vers minuit. T'as faim, tu manges, donc tu vas pas dormir tout de suite. Donc en fait, tu te couches super tard. Et quand t'as une vie de famille, une vie de couple, ou même juste des amis, ta famille, tes parents, tout ça, c'est très compliqué en fait de les voir parce que t'es souvent absent des anniversaires, des mariages, du réveillon de Noël, Nouvel An, parce qu'en fait, tu bosses beaucoup quand t'es journaliste, le week-end, les jours fériés. Et donc, c'est ça qui est le plus difficile. Par contre, jongler avec la vie d'autrice, pas de problème, mais il faut savoir que moi, je suis passée à mi-temps. Donc j'ai réduit de moitié mon temps de travail en tant que journaliste et c'est ça qui me permet de bosser sur mes projets.
Y a-t-il un moment dans votre vie où vous avez su que vous alliez faire ce métier d'autrice ?
Bonne question. Non, je pense pas. Je pense que je me suis vraiment laissée porter. Donc j'ai décidé à 35 ans de reprendre des études en bande dessinée, un master, donc de type long, de type universitaire, et je savais pas où ça allait me mener. Je me suis juste dit, voilà, moi j'adore le scénario, j'adore dessiner, j'adore le montage, donc assembler des images les unes avec les autres pour raconter des histoires, c'est ce que je fais dans mon métier de journaliste télé. Et peut-être que secrètement, allez, j'ai envie d'être autrice, et je me suis dit, c'est la BD en fait qui rassemble tout ça. Et alors que j'étais pas une grande lectrice de BD, j'ai décidé de m'inscrire dans cette école, l'école des Arts Saint-Luc de Bruxelles, qui forme à la bande dessinée. Donc je savais pas ce que j'allais vraiment y faire, si ce n'est que j'allais apprendre à faire de la BD, parce que je voulais juste dessiner un maximum tout le temps, quoi. Et puis, petit à petit, les projets sont arrivés comme ça, et avant même que je puisse m'imaginer autrice, il y a un projet qui est arrivé et puis il fallait saisir l'opportunité, il fallait dire oui. C'était un projet en or, donc le projet qui m'a permis de faire Wax Paradox. Et puis il a fallu combiner donc, la fin de mon master, ce projet, mon métier, mon enfant qui était encore tout petit. Mais je ne pouvais pas dire non à une opportunité pareille.
D'ailleurs, comment êtes-vous venue à réaliser ce projet ?
Ben donc, c'est le Musée de l'Homme à Paris qui a eu l'idée de faire une expo sur le wax. Et le musée a décidé de proposer au public non pas un livre d'exposition, mais une bande dessinée. Donc il a fallu trouver quelqu'un pour écrire cette bande dessinée. Et en fait, il y avait des contacts qui existaient entre le musée et Bayard Graphique. Bayard Graphique, c'est un label. Le label créé par les éditions Bayard, qui sont des éditions qui sont spécialisées en jeunesse. Donc qui font vraiment des livres pour les tout-petits ou pour les enfants. Et là, ils ont créé un label Bayard Graphique pour proposer des BD pour les plus âgés. Donc vous, les ados, mais aussi les jeunes adultes et puis les adultes. Et donc, si tu veux, pour faire des BD qui correspondent à ce qu'on appelle cette ligne éditoriale, il faut des auteurs qui sont capables de faire aussi de la documentation. Donc ce qu'ils font en général, c'est qu'ils font un binôme. Un dessinateur, une dessinatrice de BD, par exemple, avec un ou une journaliste. Et les deux personnes travaillent ensemble pour faire une BD. Et une de mes profs, qui s'appelle Louis Fang, qui est prof de scénario à Saint-Luc, elle était en contact avec Bayard Graphique. Et quand elle a vu leur ligne éditoriale, elle a dit « Attends, moi j'ai une élève qui va bientôt être diplômée de l'école des arts Saint-Luc, qui va bientôt être autrice de BD, et elle est journaliste, donc elle a la double casquette. » Et donc c'est elle qui m'a mise en contact avec Bayard Graphique, et c'est comme ça que le projet a démarré. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes BD que j'avais faites à l'école, ils ont bien aimé, et ils m'ont dit « Ok, go, on part avec toi sur un projet de BD. »
Quelles lectures et rencontres vous ont le plus inspiré pour écrire cette BD ?
Alors les lectures, c'est clairement le travail de deux autrices dont je salue le travail immense. Il y a notamment Anne Grosfilet qui est la spécialiste en tissu de France. Vous avez vraiment la chance d'avoir cette référence-là en France chez vous. Elle est anthropologue et elle fait plein de vidéos d'ailleurs sur YouTube de vulgarisation sur les tissus et tout ça. Elle en connaît vraiment un rayon. Je pense d'ailleurs qu'elle est incollable en fait sur cette question-là. Elle a écrit de très chouettes bouquins, dont un bouquin dans lequel elle répertorie 500 wax de sa propre collection et elle analyse tout. La symbolique, qui a créé le design, en quelle année, ce que ça veut dire, l'analyse des couleurs et tout ça. C'est très précieux ce bouquin-là. Et puis il y a Anne-Marie Boutiot qui, elle, est belge. Et elle est historienne de l'art et elle a aussi écrit un super bouquin sur wax et sur le wax. Et donc c'est vraiment de là que j'ai pu tirer toutes les thématiques que j'ai décidé après d'incarner dans ma BD.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour la réaliser ?
Alors ça a été très rapide parce que, comme je vous ai expliqué, le Musée de l'Homme fait cette expo, veut une bande dessinée et donc il faut respecter la date du vernissage. Et donc le vernissage c'était le 4 février. Donc à partir du moment où on a décidé de le faire, il fallait que la BD soit absolument prête, c'est-à-dire imprimée. Donc il a fallu rendre les dessins avant pour qu'on ait le temps d'imprimer, de confectionner les BD, de les acheminer jusqu'en France et pouvoir les distribuer et tout ça. Donc on a eu 14 mois, ce qui est très très court normalement. Il faut quand même un an pour le découpage, un an pour les dessins, donc là ça a été serré.
Wax Paradox raconte l'histoire du wax, ce tissu africain coloré. Est-ce que le wax avait déjà une résonance chez vous ?
Très peu, je dois dire. J'ai grandi éloignée des femmes de ma famille paternelle qui auraient pu m'initier au wax. Et moi-même, ça ne fait pas partie de mon style vestimentaire, donc j'en porte pas. Quand ce projet est arrivé, j'ai abordé ça vraiment en profane, quoi. C'est-à-dire que j'y connaissais rien, j'ai dû lire beaucoup. Et je me suis même posé des questions en termes de légitimité. Je me suis demandé si j'étais légitime à créer une BD sur le wax alors que j'en porte pas et que j'ai une relation assez éloignée à ce tissu. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de mettre en scène le personnage de Sophia. Je me suis dit, en fait, je vais mettre en scène un personnage métissé comme moi, qui a des relations complexes à ses origines africaines, qui doit se réapproprier une partie d'elle-même, parce que c'est pas facile de naître dans un pays occidental en tant que métisse, de mon point de vue en tout cas. Et donc ça, je me sentais légitime à mettre en scène un personnage comme ça, qui doit vraiment mener une quête et qui va explorer le wax. Et en explorant le wax, elle va s'explorer elle-même. C'était ça l'idée.
Votre BD parle aussi d'identité à travers le personnage de Sophia. Sophia est une étudiante en école d'art et doit préparer un sujet sur le wax. Or, elle ignore tout de ce tissu. Est-ce que ce personnage, finalement, c'est vous ?
Un peu, hein. C'est vrai que comme tu viens de le décrire comme ça, avec ce que je viens de dire, ça paraît assez évident. Écoute, il y a de moi dans Sophia, c'est clair. Après, j'ai pas vécu tout ce que le personnage a vécu, donc je sais que parfois les gens lisent des scènes, et il y a une copine de ma sœur qui lui a fait cette réflexion et qui lui a dit « Ah, cette scène-là, elle parlait de la scène d'ouverture avec la grand-mère et les cheveux, là. » Elle dit « Ah, cette scène-là, c'est sûr, c'est du vécu. » Alors qu'en fait, non, ma grand-mère, elle m'a jamais fait ça, elle m'a jamais tiré les cheveux, ma grand-mère n'a jamais tenu de propos racistes devant moi. Mais par contre, il m'est arrivé un événement avec mes cheveux, mais c'était chez un coiffeur, donc rien à voir. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé chez un coiffeur qu'on me tire les cheveux quand j'étais petite pour pouvoir les démêler, et je me suis mise à pleurer tellement ça me faisait mal. Et je sais pas pourquoi, j'avais honte, donc j'ai rien dit. Mais ma sœur qui était à côté de moi a vu que je commençais à pleurer, elle a dit « Mais tu pleures, mais pourquoi tu pleures ?» Et donc là, la coiffeuse qui était en train de me démêler les cheveux avec un peigne, elle me faisait super mal. Donc manifestement, elle savait pas s'y prendre avec les cheveux bouclés, afro. Elle a lâché son peigne comme ça et elle a dit « Mais comment vous voulez que je coiffe ça, moi ?» Tu vois, et donc c'est cette petite phrase que j'ai reprise dans la BD et j'ai complètement transformé la scène. La coiffeuse, c'était plus la coiffeuse, c'était la grand-mère de Sophia. Tu vois, c'est comme ça que je me suis aussi inspirée pour la BD.
Il est temps de faire une petite pause. Nous vous retrouvons après cet intermède musical. Justine, avez-vous une proposition ?
Alors, j'ai deux propositions. J'aimerais bien que vous choisissiez la chanson qui potentiellement vous parle le plus. Peut-être qu'il y en a une que vous connaissez, peut-être les deux, vous allez me dire. Donc, les deux chansons auxquelles je pense. D'abord, c'est Mon corps de Zao de Sagazan, merci. Pourquoi j'aime bien cette chanson, Mon corps ? Bon, déjà, c'est toujours chouette d'avoir une chanson en français, on comprend tout et tout. Elle dit des phrases super importantes. Vous connaissez cette chanson ou pas ?
Non.
Non ? Moi, j'aurais bien aimé entendre cette chanson quand j'avais votre âge. Parce qu'elle dit des phrases du genre « Mon corps, je t'en ai voulu, je t'en veux encore ». Et elle dit comme ça à quel point elle est mal à l'aise avec son corps et qu'elle a fait la guerre à son corps, mais qu'en fait, elle se rend compte et elle nous prend la main comme ça dans la chanson où on l'accompagne. Elle se rend compte au fil de la chanson et de sa vie, du coup, que son corps, il est hyper précieux, qu'il est génial, qu'il lui permet de vivre, qu'il est avec toutes ses imperfections, il est parfait. Et je pense que si j'avais été ado et que j'avais entendu cette chanson-là, elle m'aurait fait du bien. Donc je vous propose d'abord cette chanson-là. Et l'autre chanson à laquelle j'ai pensé quand tu m'as posé la question, c'est Higher de Salt. Là, c'est un genre plus pop. Non, c'est pas du tout pop, je dis n'importe quoi, mais plutôt, je sais même pas en fait comment définir, mais R&B un peu comme ça, mais alternatif. Et c'est une chanson en fait que j'ai mise sur les réseaux sociaux, sur une vidéo que j'ai faite avec mes copines quand on a appris que Wax Paradox était réimprimé. Ça veut dire que ça marchait bien, les ventes, que les libraires soutenaient la BD et la vendaient bien. Et donc l'éditeur a décidé de réimprimer la BD pour éviter une rupture de stock. Donc ça, c'était une super nouvelle pour l'éditeur, pour moi, pour tous les potentiels lecteurs et lectrices. Et dans cette petite vidéo, sur cette petite vidéo, j'ai mis cette musique-là. Et donc immédiatement, ça me fait penser à cette scène-là. Et je nous revois avec mes potes à côté de la Tour Eiffel, parce que le Musée de l'Homme à Paris, il est place du Trocadéro. Donc il est vraiment avec... T'as la vue sur la Tour Eiffel. On était allés au vernissage tous ensemble. On voit la Tour Eiffel sur la vidéo qui est encore illuminée parce que c'était le soir, et on danse comme ça sur cette musique, et ça reste un super bon moment. Est-ce que vous avez une préférence? Vous pourrez pas choisir les deux, hein.
Pourquoi pas celle de Zao de Sagazan?
Ouais, allez, on part là-dessus.
Je t'en veux encore.
Nous sommes de retour sur BAC FM pour cette émission consacrée à l'échappée littéraire. Nous sommes en compagnie de l'autrice Justine Sceau que nous recevons pour sa BD Wax Paradox.
Cette BD met en valeur le wax. La couleur a donc dû être un élément important de votre travail. Comment avez-vous abordé ce motif ?
Alors c'est vrai qu'il y a différents motifs, ils sont super nombreux, il y a 30 000 versions de wax qui existent en termes de motifs et j'en ai vu qu'une petite partie évidemment parce qu'il y en a trop. Mais donc pour les redessiner correctement, le défi c'était en fait qu'ils soient immédiatement reconnaissables. C'est-à-dire que le risque si je faisais ça de manière peu précise, c'est que les lecteurs se disent « Ah ouais, ça me fait penser à quelque chose » ou « Ah tiens, ça ressemble à des tissus un peu, je sais pas, latino-américains, genre ou orientaux ou asiatiques. » Non, il fallait absolument que les gens reconnaissent immédiatement qu'il s'agissait de wax. Et donc là, j'ai fait beaucoup de photos et j'ai recopié vraiment les photos presque à l'identique pour qu'on reconnaisse le wax. Ce que j'ai pris parfois comme liberté, c'est que parfois j'avais une photo donc d'un tissu à plat. Mais dans ma planche, le tissu, il a plein de drapés, il est chiffonné et tout. Et donc là, j'essayais de recréer le mouvement du drapé dans le tissu, mais toujours sur base de la photo.
D'ailleurs, quelle est votre technique de dessin ? Utilisez-vous des outils particuliers ?
Alors là, peut-être je vais vous décevoir, mais j'ai fait ma BD à la tablette graphique. Donc malheureusement, je peux pas vous parler de tous les pinceaux et de toutes les aquarelles et la gouache que j'ai utilisée. Non, c'est la tablette. Donc c'est mon petit stylet, ma tablette. Et je pouvais aller partout. Donc j'ai dessiné dans les bars, dans les cafés. J'ai dessiné dans un espace de coworking auquel j'ai eu accès et qui m'a vraiment permis de finir cette BD, sinon ça n'aurait pas été possible. J'ai dessiné sur mon divan. Je me suis complètement cassé le dos, ne faites pas ça. Enfin, dessiner des heures assise comme ça sur un divan, c'est vraiment la pire des choses. Et donc voilà, les techniques, en fait, donc il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est que je voulais quand même un rendu crayonné avec le contour. Donc j'ai utilisé un pinceau style brush qui ressemble un peu à un crayon. Et puis pour les couleurs, j'ai aussi utilisé une sorte de pinceau qui est, je veux dire, il y a de la transparence dans ce pinceau. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je ne voulais pas une couleur 100% saturée et sans transparence et opaque.
Dans votre BD, il est beaucoup question de clichés, que ce soit sur ce tissu ou bien sur le personnage de Sophia. Quels sont les clichés qui vous ont le plus frappé concernant le wax ?
En fait, ce n'est pas tant les clichés qui m'ont frappé, mais j'ai été frappée par l'intensité avec laquelle les gens défendent leur position, le regard qu'ils portent sur le wax. Donc, les personnes qui trouvent que le wax est africain et qui sont attachées à ça, c'est vraiment, on vient toucher là à quelque chose de fondamental pour elles. Et donc, ça m'a impressionnée de voir l'intensité avec laquelle cette personne revendiquait l'africanité du wax en disant « c'est un tissu de chez nous, ne dites pas le contraire », etc. Et c'est vrai qu'elles ont raison et c'est indéniable. Aujourd'hui, ce tissu, il est à 100% indissociable de son continent. Et puis, j'ai vu aussi l'intensité avec laquelle certaines personnes remettait en question l'africanité du wax en disant « mais non, c'est un tissu colonial, ça représente la mainmise de l'Europe sur l'Afrique, les personnes qui se font de l'argent grâce à la vente de wax, ce sont les Blancs, ce sont ou les Asiatiques, c'est pas les Africains, ils nous utilisent, ils surfent sur l'africanité pour se faire de l'argent, il faut pas le porter, etc. » Et là aussi, il y a une forme d'intensité du discours. Ça m'a vraiment frappée.
À travers le personnage de Sophia, vous parlez de plusieurs stéréotypes, notamment au début de la BD, comme vous le disiez, où la grand-mère de Sophia essaie de masquer la couleur de peau de sa petite fille pour qu'elle ressemble à une bavaroise. Pourquoi était-ce important d'évoquer ces clichés ?
Parce que je devais montrer que Sophia était dans un entre-deux et qu'il y avait une question identitaire, voire des questions identitaires qui se jouaient pour elle. En fait, le principe de l'art littéraire, c'est non pas de montrer, non, c'est l'inverse. Le principe de l'art littéraire, c'est non pas de dire, mais c'est de montrer. Donc par exemple, si tu as un personnage qui est fatigué, il ne faut pas le dessiner avec une bulle et il va dire « je suis fatigué » ou « je suis triste » ou non. Ce que tu dois faire, c'est le mettre en scène pour que le lecteur, la lectrice, comprenne qu'il est fatigué. Par exemple, tu vas le faire s'endormir au volant, tu vas le faire bâiller, voilà. C'est des exemples. Et donc, il fallait que je montre, il fallait que je crée des scènes pour montrer le tiraillement identitaire dans lequel Sophia était. Et donc, c'est comme ça que ces scènes me sont venues à l'esprit.
Est-ce que vous saviez dès le début comment finirait votre BD ?
Non. Ça, j'adore. En fait, il y a un truc que je déteste, c'est le seul truc que j'aime pas dans le fait de faire une BD, c'est d'écrire le scénario jusqu'au bout. Et d'avoir une sorte de synopsis, donc c'est le résumé avec la fin déjà écrite, ça je déteste. Donc moi quand je commence mes BD, je ne connais pas encore les développements, je ne connais pas la fin, et je constate aussi que c'est comme si le message, s'il y en a un, de la BD se révèle à moi au fur et à mesure que je suis en train de faire la BD. Donc c'est en cours de production que je comprends, que je me dis mais en fait je vais parler de ça, ça va être ça, les enjeux et tout ça. Ça j'adore.
Vous avez déjà eu des retours sur votre BD. Comment a-t-elle été reçue ?
Alors, j'ai des retours qui me parviennent des réseaux sociaux, par exemple. Donc, des gens lisent la BD, puis m'écrivent un petit mot sur les réseaux. Souvent, là, c'est l'aspect identitaire. Donc, les gens prennent le temps d'écrire un message. On ne fait pas tout ça. Hein. Je ne sais pas vous si ça vous est déjà arrivé, après avoir regardé un film, lu un livre, de vous dire « j'aimerais bien écrire à l'auteur ou l'autrice ». Parfois même, on ne connaît même pas le nom de l'auteur ou l'autrice. Donc, c'est quand même pas rien, je trouve, comme geste d'aller jusque-là. Donc, c'est des messages que je lis et je prends le temps de répondre parce que comme je ne suis pas une star, j'en reçois pas non plus 1500. Et donc, pour le moment, c'est vraiment très, très chouette. Ça se passe super bien. Ce n'est pas des retours négatif ni critique, c'est vraiment des gens qui me disent que ça les a touchés, qui se sont retrouvés dans justement ce tiraillement identitaire du personnage de Sophia, ou alors des personnes qui ont vécu en Afrique, soit parce qu'elles sont allées là-bas pour travailler, soit parce qu'elles ont de la famille qui viennent de là, soit parce qu'elles-mêmes sont nées là-bas, et qui retrouvent une partie d'eux-mêmes, d'elles-mêmes dans la BD, donc ça c'est trop chouette. Et puis aussi des personnes qui viennent me trouver en rencontre, en séance de dédicace, et qui me disent... me dit ce qui les a touchés dans la BD.
Maintenant que votre première BD est parue, travaillez-vous sur un autre projet ?
Eh bien, depuis une semaine, oui. Donc, c'est encore une le mot commande n'est pas très joli, mais disons que c'est une proposition, une suggestion d'un éditeur. Donc, le projet ne vient pas de moi une nouvelle fois. Donc là, c'est Sarbacane qui souhaite adapter... le roman de Solène Chalvon-Fioriti, qui est une journaliste française qui est partie s'installer en Afghanistan pendant plusieurs années quand elle était toute jeune. Elle avait 24 ans et elle n'avait pas de réseau, elle n'avait pas de diplôme de journalisme, donc elle n'avait pas fait d'école de journalisme et pourtant elle rêvait d'être journaliste et elle est partie là-bas. Elle s'est dit, mais en fait, je vais aller là où personne ne veut aller parce que c'est dangereux, ça fait peur et que les journalistes occidentaux, ils ne vont pas là-bas. Et ça lui a permis de se faire une place, d'apprendre le métier et surtout de découvrir les femmes afghanes et leur résistance bluffante et leur féminisme impressionnant qui est historique, qui est vraiment ancré dans l'histoire du pays.
Cette émission spéciale Échappée littéraire touche à sa fin. Nous étions en compagnie de l'autrice Justine So pour sa BD Wax Paradox. Merci Justine d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons une bonne journée et restez sur Bac FM. Au revoir.
Salut tout le monde.